Donc oui, bienvenue à Montréal et à l'épisode numéro 1 de Poutine à 2. Mon nom est Patrick Talen, je suis concepteur de jeux, producteur de cette émission Poutine à 2 et l'un des deux autres de Poutine à 2. Et ça tombe bien puisqu'en face de moi, j'ai l'autre hôte de cet épisode, c'est-à-dire Grégory Bellassel. Bien le bonsoir, est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Donc Greg, ce soir, on est co-hôte, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui prend vraiment la responsabilité sur son dos. La dernière fois, je l'ai fait, maintenant c'est à ton tour. Qui va-t-on rencontrer ce soir?
On va rencontrer Catherine Smith-Desbiens de Girls on Games, qui est un site anglophone de jeux vidéo ici à Montréal.
Sinon, comment l'as-tu rencontré, Greg?
Je l'ai rencontré à travers un autre podcast où tu es aussi concepteur de jeux et producteur qui s'appelle Les Jeux sont faits.
Que de coïncidence, je t'en prie, continue.
Donc elle avait déjà eu l'occasion de venir pour parler un peu des médias en général sur la scène montréalaise. Donc là, on l'a fait revenir ce soir pour qu'elle nous parle d'elle-même, qu'elle nous parle aussi un peu de ce qui rend Girls on Games différent, peut-être de l'offre médiatique à Montréal en général, mais peut-être même, je dirais, d'une certaine façon, une philosophie qui s'applique aux médias de jeux vidéo en général, je pense.
Non, c'est ça. Puis de ma compréhension, pour avoir discuté un peu avec elle, justement, hors contexte des deux émissions que nous avons faites avec elle, j'ai tendance à croire qu'ils sont aussi en train de changer d'emphase. Au début, on se le cachera pas, c'était plus un site de nouvelles de jeux vidéo, mais là, de plus en plus, ils ont l'air de se pencher sur l'aspect communautaire.
Non, c'est ça. Je pense que ça va faire partie des sujets qu'on va approcher, de voir un peu comment l'approche évolue. Puis aussi, on s'en prend en compte à différents niveaux. Mais tout ce qui est média en général, et en particulier au niveau du jeu vidéo, il y a une évolution. Je pense qu'il y a de plus en plus des vieux modèles qui marchent moins bien. Donc, on va pouvoir avoir sa vision puis son point de vue aussi là-dessus.
C'est très bien de parler des gens, mais on se rappellera le titre de l'émission « Et Poutine à deux ». As-tu une anticipation, une vision pour la poutine de ce soir?
Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter l'épisode 0, j'ai hésité entre deux poutines. J'ai hésité entre la mexicaine.
Oui.
Peu importe, avec le chili. Et l'autre, dont j'ai oublié le nom déjà, désolé. Mais donc, je pense que je vais essayer la mexicaine que je n'ai pas essayée avec le chili. Parce qu'elle avait l'air bien appétissante la dernière fois aussi.
Donc, ta perte de mémoire, c'est une manière subtile pour nous inciter à écouter l'épisode 0?
Ben, si vous y avez accès grâce au Patreon, effectivement, ne manquez pas ça.
Très bien. Je crois qu'on va arrêter de faire de la publicité pour Radio Kiowa et s'élancer vers le restaurant. Qu'est-ce que t'en penses, Greg?
Ça marche. Oui, donc on est arrivé encore une fois au Hippie Poutine, même place que pour l'épisode 0 pour ceux qui ont l'occasion de l'écouter. Et je suis ici avec Catherine Smith-Desbiens, qui est cofondatrice et co-éditeur de girlsongames.ca. Comment vas-tu?
Ça va super bien, il fait vraiment chaud pour un 25 septembre, j'ai peur pour l'avenir de la planète, mais à part de ça, ça va super bien.
Non, c'est ça, on vit le réchauffement climatique en direct, effectivement. Je pense qu'on vient de battre des records d'ailleurs d'après différents rapports météo, et pour les deux prochains jours encore, on va avoir de la canicule.
C'est l'automne, officiellement?
Oui, c'est l'automne, mais je pense que l'été est arrivé en retard. On est au mauvais mois de juillet, il se rattrape en septembre.
Clairement.
Sinon, je sais pas si toi, t'avais eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur le menu ici présent. Moi, je sais que je vais prendre la Mexico, qui est ce que je n'ai pas pris la dernière fois. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer pour de vrai.
Moi, c'est malade. C'est comme il y a une belle section de poutine, mais la section burger me parle aussi.
Ah, écoute, c'est pas parce que l'émission s'appelle Poutine à deux que t'es obligé de prendre une poutine.
Non, mais c'est clair.
On n'est pas strict comme ça.
Ben, moi, mes amis me connaissent. Genre, on arrive à quelque part, puis ils savent que moi, je poutine mes frites.
D'accord.
C'est comme, ils sont genre... Si c'est en bas de 4$, moi, je transforme ma frite en poutine.
D'accord, donc là, c'est vraiment un bon duo burger et poutine.
Je vais probablement le regretter, considérant qu'il fait presque 40 degrés Celsius avec l'humidité. Bon, ça va peut-être se ramasser quelque part dans une station de métro par terre, mais c'est pas grave. Je sais pas, je regarde peut-être le Lisbonne, là.
Le Lisbonne, donc c'est bacon, champignons, fromage, oignons caramélisés. Ouais, ça a l'air bien.
Ouais, ça a l'air super bien, sinon je vais peut-être regarder poutine. Mais peut-être j'y aller avec ça.
pour nos auditeurs qui te découvrent, peut-être nous parler un peu de ton historique avec les jeux vidéo. J'imagine on ne se retrouve pas à travailler dans le jeu vidéo, dans le média de jeux vidéo, par hasard, souvent, parce qu'on a un amour qui a grandi dans notre enfance, souvent. Dans ton cas, toi, c'était quoi tes premières expériences jeux vidéo ludiques?
Comme toute bonne fille née dans les années 80, ça a été la Nintendo, la classique, avec le fusil.
Un autre fan de Nintendo.
J'y critique beaucoup, mais ça a été la première console avec Duck Hunt puis Mario, le premier Mario. Oui. Ensuite, on a sauté la Super Nintendo parce que mon frère adorait les jeux de sport, donc on a eu une Sega Genesis.
Ah, d'accord. OK, c'est intéressant.
Mon jeu préféré sur la Genesis, c'était Aladdin.
Ah, ben oui.
Moi puis mon ami, on se passait la manette pour ce jeu-là beaucoup. Bon, j'en avais 8 ans, puis la fin de semaine, on se couchait tard, qui était probablement minuit. Pour nous autres, c'était comme méga tard, mais c'est rien. Puis on jouait à Aladdin. Et éventuellement, toutes les consoles de nos amis ont commencé à briser, puis on a hérité de cassettes de Nintendo et de Genesis. Je me suis ramassée avec le Game Genie.
Oh!
Puis le Game Shark pour la Genesis, le Game Genie pour la Nintendo. Puis on a roulé avec ces consoles-là vraiment longtemps, je te dirais, jusqu'à la PlayStation 2.
OK.
Puis on a réussi à convaincre mes parents d'acheter une PlayStation 2 parce que c'était aussi un DVD player.
Voilà, c'était l'argument de vente à l'époque.
L'argument classique de tant qu'à t'acheter un DVD player Sony, la PlayStation 2 t'a le même prix. Et là, je suis rentrée dans Final Fantasy.
Oui.
Et en plus, la PS2 était rétro PS1. Fait que
t'as pu jouer au jeu de PS1.
Je suis partie de Final Fantasy 7. Encore, j'ai pas eu de Super Nintendo, donc j'ai skippé tout ce qu'il y avait, le 6 et tout ça. Je suis partie de 7, puis on est monté jusqu'à 10. Et après ça, j'ai juste continué à jouer. J'ai été on and off console, PC. Ça dépendait un petit peu de ma situation financière. Quand j'étais à l'université, j'ai joué à beaucoup de World of Warcraft avec mes amis, avec des vrais amis, des amis que j'ai fait en ligne. Après ça, on s'est tous ramassés à Montréal, puis on est devenus des amis dans la vraie vie. Et je dirais que depuis, avec la force des choses, puis le fait que je fais rouler Girls on Games, là, j'ai toutes les consoles, j'ai un PC de gaming. C'est des choses qui sont nécessaires à ce que je dois faire un peu. Puis j'ai aussi, ça me donne accès à, j'ai accès à des jeux pour des critiques, des choses de même. Fait que ça l'a vraiment ouvert mes horizons que probablement que si je serais juste restée à jouer dans mes petites affaires, que je serais restée fermée dans mes petits JRPG puis ces genres de choses-là. Mais avec ça, j'ai découvert les jeux d'action, les jeux d'aventure, même des first person. J'ai joué beaucoup. Puis Girls on Game, c'est un projet qui a commencé avec moi et Lia. À l'époque, on travaillait en radio, on travaillait pour Chaume.
Chaume qui est une radio anglophone ici à Montréal.
Exactement.
Pour les auditeurs européens qui sont peut-être moins familiers.
Ouais, donc c'est une station de radio anglophone qui est très, qui à l'époque était très biker, Harley Davidson, et ils ont fait un rebranding. Et sur le site web, il y avait une feature qui s'appelait Babe of the Day, la nana du jour. Donc on a remplacé ça, puis Lia puis moi, on s'est offert à faire un blog de jeux vidéo. Puis pour un petit peu highlighter le fait qu'on était des filles, puis vraiment le shift de mentalité qu'on a des filles qui parlent de jeux vidéo au lieu de filles en bikini. Mm-hmm. On a appelé ça Girls on Games parce qu'on était deux filles. C'était un petit peu de ça qu'on est parti. Puis le projet de Chaume a duré un bon 3-4 ans, mais le projet de Girls on Games at large a grandi puis a vraiment dépassé Chaume. On a lancé girlsongames.ca. On a parti un podcast. Maintenant, grâce à Mixer, on a une équipe de streaming. Puis c'est devenu vraiment, ça a le prix de l'expansion. Puis c'est vraiment juste parti de moi puis Lia que, genre, on parlait des jeux qu'on aimait, de si on avait des intérêts communs en jeux vidéo, des choses comme ça. Puis on a eu cette opportunité-là. Puis c'était facile pour nous de contacter les compagnies de jeux vidéo disant « Hey, vous êtes à Montréal, on est à Montréal, on peut-tu se rencontrer? » On a commencé avec Ubisoft. On s'est ramassé chez WB Games, à un moment donné chez Square Enix Montréal. Puis depuis, maintenant, il y a plus de studios, il y a les indépendants, il y a le boom. Même si on ne fait plus rien pour Chaume, cette époque-là est vraiment finie, bien, notre projet roule tellement bien tout seul qu'on peut contacter. « Salut, on est de Girls on Games. »« Ah oui, je connais votre podcast. » Puis à chaque fois, on est un petit peu comme « Ah ouais? Ah ouais, tu nous connais? » Mais ça fait quand même 6 ans qu'on fait ça.
Mais c'est super intéressant parce que ça a commencé un peu par presque par accident, en fait, le projet. Donc il y avait cette volonté un peu de changer l'image de la station de radio. Vous avez proposé le projet, mais donc dans ta tête à toi, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait éventuellement de toucher aux médias de jeux vidéo, ou c'est vraiment l'opportunité s'est présentée, puis éventuellement ça fait effet boule de neige, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui?
Moi, je voulais travailler dans les jeux vidéo. Je voulais vraiment, comme moi, je pensais que j'allais me trouver une job dans les jeux vidéo, UI, UX artist, design graphique ou même concepteur de niveau, concept artist, des choses comme ça. Puis l'opportunité s'est présentée de faire du contenu, puis je savais pas vraiment. Moi, j'ai toujours travaillé dans le contenant. Je suis designer graphique, je suis web designer. Moi, j'ai toujours fait du contenant. C'est très rare que j'ai fait du contenu, puis on s'est lancé là-dedans et j'ai découvert une passion et un certain talent. À le faire. Ben, mes premiers articles de blog sont pas à tout casser, on va pas se le cacher. Mais avec le temps, ça s'est vraiment amélioré. Et depuis, je suis agréablement surprise du fait que je peux faire du contenu autant que du contenant. Parce que moi, dans ma tête, je m'étais mis un petit peu dans une boîte, là, qui est probablement pas une bonne idée pour une artiste, mais je trouve que l'université m'a préparé beaucoup à me mettre dans une boîte et pas vraiment à expérimenter. C'est vraiment le marché du travail. C'est quand tu arrives sur le marché du travail que tu t'épanouis puis tu découvres ces certaines choses côté de toi. Puis c'était un projet pro bono qu'on faisait on the side parce qu'on adorait ce qu'on faisait, parce qu'on adorait la station de radio pour laquelle on travaillait. Puis maintenant, c'est devenu gigantesque. Et depuis, je travaille pour une compagnie de jeux vidéo à faire ce que j'ai toujours fait, à faire du design web et du e-commerce. Mais maintenant, je le fais pour une compagnie de jeux vidéo. Donc, c'est malade. Puis, il y a Girls on Games pour qui je remercie pour ça. Parce que je pense pas que j'aurais attiré l'attention autant si ça serait pas du projet Girls on Games qui a fait vague, au moins à Montréal, dans les studios montréalais, parce qu'on y va régulièrement pour les lancements de jeux et tout ça.
Non, c'est intéressant parce que en faisant parler un peu avec moi, j'ai fait un peu de journaliste freelance de jeux vidéo dans mon jeune temps. Mais un peu comme toi, moi, je voulais travailler dans le domaine du jeu vidéo, puis ça m'a vraiment permis d'avoir des contacts, puis de savoir aussi un peu qui m'adresser. Puis bon, on apprend aussi, je veux dire, en étant en contact avec plein de jeux, en voyant des fois des gens en développement, on apprend aussi beaucoup sur comment les jeux fonctionnent, comment les jeux sont faits. Donc je trouve ça intéressant que ça t'est servi un peu de tremplin, Girls on Games, pour éventuellement pouvoir te trouver un emploi. Je pense qu'il y a une question intéressante aussi là-dedans. Mm-hmm. Travaille pour un développeur ici à Montréal, Ubisoft, pour ne pas le citer. Tu travailles aussi, Girls on Games, c'est un projet que tu continues à faire, t'as pas abandonné ça pour aller chez Ubisoft. Comment est-ce qu'on gère travailler pour une compagnie de jeux vidéo et en même temps être un journaliste de jeux vidéo, être un média de jeux vidéo?
Premièrement, moi, je travaille pas dans le studio. Fait que déjà là, je ne fais pas des jeux. Ça aide beaucoup. Moi, je suis pour Ubisoft Canada, je suis pour une business unit, puis je fais vraiment du e-commerce puis du design web. Donc, je suis pas dans le gameplay, je suis pas dans le nitty-gritty, puis je suis pas peut-être dans la politique de quel projet est accepté puis pourquoi ça a changé de direction. Rendu à ce point, quand ça se rend en moins, souvent, c'est pas mal accepté et accepté.
C'est sur les rails.
Déjà là, ça aide. Mais oui, j'ai plus le droit vraiment de critiquer les jeux d'Ubisoft. Pas dans le sens que, genre, ils m'ont muselé, mais la critique officielle d'Assassin's Creed Origin puis de Far Cry 5, elle peut pas être écrite par moi. Et des fois, certains sujets de podcast, quand mes collègues commencent à parler, puis ça parle d'Ubi, ça parle de Vivendi, ça parle des prochains jeux, des choses comme ça, si j'ai peur de dire quelque chose que je devrais pas dire selon mon contrat avec mon employeur, je fais juste rien dire. Ils empêcheront jamais Girls on Games de parler de jeux vidéo, de critiquer leurs jeux, parce qu'à quelque part, c'est une nécessité, puis la plupart des développeurs de jeux vidéo fonctionnent avec ce feedback-là, mais s'il vient de moi, c'est ordinaire. C'est ordinaire, publiquement. Donc, c'est plus ça. Fait que c'est moi la fan d'Assassin dans l'équipe. Je peux pas critiquer le prochain Assassin. On a un beau problème.
C'est ce côté un peu déchirant, des fois, de travailler dans deux domaines qui sont connexes. Parce qu'effectivement, je me souviens, bon, si on va sur le site de Girls on Games, il y a quand même une certaine politique éditoriale. Mm-hmm. J'imagine aussi, comme tu disais un peu, ça serait... Du moins, ça donne une meilleure impression d'impartialité. Si tu travailles pour Ubisoft, donc tu fais pas les critiques des jeux Ubisoft, ben, les gens pourront pas dire « Ah ben oui, c'est sûr, elle lit qu'Ubisoft, Assassin, c'est super bon parce qu'elle travaille pour Ubi, elle fait de la pub déguisée, etc. » Quand on sait des fois comment sont les la perception de certains joueurs, du moins des médias de jeux vidéo, je pense que c'est une bonne chose que vous ayez fait cette séparation-là.
Oui, puis c'est quelque chose que je suis pas la première à me faire engager par une compagnie de jeux vidéo dans le groupe de Girls on Games. On a Ali qui travaille pour Red Barrels. On a Bianca qui est une membre de notre équipe de stream qui aussi a fait un peu d'éditorial pour nous, qui est animatrice pour Ubisoft. Donc, et elle a eu son emploi il y a un an de ça, elle est rentrée chez Ubi bien avant moi. Donc, on a déjà cette expérience-là et on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, comme quand il est venu le temps d'avoir une entrevue pour Outlast, bien, la personne qui s'occupe du PR, c'est Ali. Fait qu'il a fallu qu'on organise une entrevue avec notre collègue. Mais, tu sais, ça s'est fait dans l'ordre des choses. Elle a été voir son employeur, elle a fait « Ah, ils veulent parler de Outlast », ils ont fait « Ben, c'est toi notre PR anglophone, fait que tu sais quoi dire, tu sais quoi pas dire, puis bonne entrevue ».
Non, c'est intéressant, parce qu'effectivement, le monde du jeu vidéo à Montréal étant quand même un petit monde, hein. Donc éventuellement, on connaît un peu tout le monde, etc., puis c'est bon de voir qu'il y a toujours une volonté de garder une certaine éthique, du moins, il y a une certaine distance aussi, parce qu'éventuellement, on connaît les projets, on connaît tout le monde, on a tous des amis dans les studios ou dans les médias locaux, etc.
Ouais, c'est comme... On sait qu'est-ce que la plupart des studios font. On entend les rumeurs, il y a les leaks, qu'ils soient voulus ou non, mais... Honnêtement, je préfère attendre que la source soit confirmée, parce que des fois, les gens ont tendance à trop déformer les choses, parce que veux pas, quand les gens sont passionnés, sautent sur ce qu'on appelle le « hype train ». Des fois, là, ça fait quoi? Des rumeurs, une année complète qui parle de Pokémon Stars. Puis tout le monde parle de Pokémon Stars sur la Switch, mais Nintendo n'a rien confirmé. Fait qu'on prend pour acquis qu'il n'y en a pas de Pokémon sur la Switch.
Non, des fois, en plus, le hype fait plus de mal que de bien. Ouais. Je pense à No Man's Sky. C'est bien un exemple de jeu qui a souffert du hype, c'est bien ça. Sinon, maintenant, pour revenir sur Girls on Games en particulier, bon, déjà, c'est intéressant, c'était parti par toi puis Lee à l'époque, donc par deux filles. Il y avait la notion de dire, bon, là, c'est des filles qui parlent de jeux vidéo. Quand on regarde l'équipe que vous avez bâtie, parce que maintenant, c'est plus juste vous deux, là, il y a d'autres gens qui vous ont rejoint, majorité de filles, aussi bien au niveau du stream que du podcast, que du site web, je vais assumer qu'il y a une volonté aussi de dire, on veut vraiment amener... Faire le Girls on Games, c'est un média qui permet aux fans de s'exprimer sur le jeu vidéo et de donner un peu une saveur aussi différente, de se démarquer peut-être des autres médias aussi bien aussi à Montréal qu'au Canada ou en Amérique du Nord.
L'affaire, c'est que si tu crées une zone où est-ce qu'on dit « Hey, on juge pas », les gens qui ont tendance à être le plus jugés vont être attirés. Puis en ce moment, dans les jeux vidéo, il y a vraiment un gros problème de sexisme. Probablement de racisme aussi, mais c'est pas quelque chose que je peux connaître moi-même personnellement en tant que femme blanche, mais moi je connais le sexisme. Fait qu'on a vraiment, par la force des choses, on a attiré plus de filles. Je te dirais qu'aujourd'hui, par exemple, on s'en vient un peu plus moitié-moitié, parce que maintenant il y a beaucoup d'hommes hétéros qui sont juste. Moi aussi, je suis tannée que tout le monde gueule et s'envoie chier, là. J'aimerais ça un endroit où est-ce que je peux juste trouver des gens avec qui jouer des jeux. Et si on regarde notre communauté, comme par exemple les gens qui nous suivent sur Twitter, notre serveur Discord et une page Facebook, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Sur l'équipe, on est encore une petite équipe. On est vraiment genre 5 personnes centrales. On est 4 filles et un gars. Dans l'équipe de stream, parce qu'on s'est advertisé comme étant Girls on Games, il y a plus de filles qui viennent nous voir parce qu'ils disent « Je cherche une équipe axée sur la diversité et l'inclusion. » On a quand même deux gars qui stream. On a Simon, qui est notre producteur de podcast, et on a Adam Stains by Kinsby, qui vient d'Angleterre, que lui était très actif dans notre serveur Discord. C'est un de nos modérateurs. Il a fait « Je vais commencer à streamer sur Mixer, je pourrais-tu être dans l'équipe? » Comme nous autres, tout ce qu'on demande, c'est un horaire fixe de streaming, que tu streames au moins une fois par semaine, puis que tu entretiennes ton auditoire, puis que tu sois actif dans le Discord. Tu as déjà un des deux. Puis dernièrement, on a plus de gens qui sont joints à nous. On a une qui est partnered avec Mixer, donc qui, elle, tire des revenus de Mixer, qui nous a approchés parce qu'elle cherchait... Dans Mixer, tu as le droit d'avoir 3 équipes. Puis sa dernière équipe, elle voulait quelqu'un qui promouvait la diversité. Donc, elle a demandé si elle pouvait se joindre à notre équipe. Merci. Pour elle, c'était très, très important que ce soit quelqu'un qui promouvait la diversité. Elle a vu que certaines de ses amies avaient commencé à joindre notre équipe. Donc, elle a fait « Ah! Ben ça a l'air cool. Je vais essayer cette gang-ci, là. » Donc, c'est vraiment le fun. Puis en même temps, en promouvant la diversité comme ça, on a fait des amis, comme les gens de Gamerzone ici à Montréal, qui s'appellent G-A-Y-M-E-R. Donc Gamerzone, qu'eux, ils organisent des soirées de jeux vidéo pour la communauté LGBTQ, pour qu'ils puissent avoir un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller jouer à des jeux, puis qu'il y ait zéro jugement. Puis c'est pas une question de genre Xbox versus PlayStation 4, c'est juste comme... Genre, j'ai de la misère dans le monde extérieur, on me juge parce que je suis gay ou je suis queer. Mais pour une soirée, tu peux venir jouer à Just Dance, puis à Super Smash, puis à Overwatch, puis on va juste jouer à des jeux. Puis on s'en fout quitter, tout ça. On leur parle souvent, et les organisateurs de Gamerzone, on a connecté avec eux plusieurs fois, on a fait des events avec eux, justement parce qu'ils ont fait « Ah, vous aussi, vous promouvez la diversité. » Eux, c'est dans la communauté LGBTQ, nous, c'est... par le fait que, oui, les filles, ça joue à des jeux, on peut-tu arrêter de dire que c'est spécial? Puis ça fait des beaux partenariats, puis ça fait aussi des amis, des gens avec qui on peut parler, puis ça fait aussi comme, OK, bon, on veut organiser un truc, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui va faire de quoi, qui va plaire à tout le monde? Ben oui, on connaît les gars de Gamerzone, par exemple, mm-hmm. que eux savent comment faire un party.
Non, ça, c'est super intéressant. Déjà, juste, bon, bien évidemment, les auditeurs ne peuvent pas savoir, parce qu'ils n'ont pas de yeux ici, mais la nourriture est arrivée. Fait peut-être déjà un commentaire rapide. En tout cas, moi, ma poutine a l'air parfaitement décadente. J'adore. Toi, ton burger a l'air bien, finalement.
Ouais, j'avais peur qu'il soit trop gros, parce qu'elle m'a dit que c'est quand même un gros burger. Mais genre, moi, j'ai grandi à côté de l'Ontario, où est-ce que des fois, les portions en Ontario sont de mesure américaine? Pour dire États-Unis. Fait que moi, je m'attendais à un burger gros comme ma face.
Pour toi, c'est un burger de taille raisonnable.
C'est un... Oui. C'est probablement un gros burger pour bien des gens. Mais je vais pouvoir tout manger. Je pense pas que ça va finir sur le plancher d'une station de métro tantôt.
Non, mais je pense que tout le monde t'en remercie, d'ailleurs. Surtout les gens qui prennent le métro après toi. Pour faire un segway, retourner sur notre sujet principal, moi, je trouve ça super intéressant ce que tu disais, vraiment, un peu la vision de Golden Game a évolué. Au début, bon, c'était les filles qui parlent de jeux vidéo. C'était une façon aussi de créer un espace pour que les filles se font comme, hein, c'est des filles aussi, on sait qu'on ne sera pas jugé si on participe, si on joue à cette communauté-là. Puis là, maintenant, il y a vraiment cette idée-là de dire, on veut juste créer un espace safe, inclusif, où on n'a pas nécessairement les problèmes qu'il y a des fois dans d'autres communautés. Mm-hmm. Où on a des gros trolls agressifs qui, ouais. Veut pas, ont tendance un peu repousser les gens. Moi, la question que je poserais, c'est comment est-ce qu'on bâtit ça? Parce que, je veux dire, veut pas, c'est l'Internet. Hein. Je veux dire, on peut bien essayer de protéger les gens, mais malheureusement, c'est souvent difficile de comment dire, d'écarter les gens désagréables. Donc, comment est-ce que vous avez bâti ça au fur et à mesure, Girls on Games? Ça a été quoi votre approche pour essayer vraiment de bâtir cette communauté inclusive et respectueuse?
Ça se fait en deux étapes. En première étape, il faut que tu sois inclusif et respectueux. Puis, tu sais, ils disent « don't feed the trolls », fait qu'encouragez pas les trolls. Mais comme, tu sais, nous autres, quand on a des trolls, on les envoie pas chier, parce que si quelqu'un qui rentre qui est comme « fuck you, nerds », puis toi, t'es comme « fuck you, troll », ben ça fait juste dégénérer. On va pas se le cacher. Donc, nous autres, c'est plus comme « Ah, tu sais, comme ici, on accepte tout le monde. Qu'est-ce que tu aimes jouer? Toi, peut-être tu vas trouver des gens avec qui jouer ou des choses de même. » Il y a des fois que c'est juste des enfants de 12, 13, 14 ans qui se pètent un fun et tu fais juste les kikis du serveur ou du chat. Mais souvent, on a été capable de retourner ça, juste faire comme... Tu sais, on a tout du fun ici, là. Sérieux, si t'aimes Overwatch, reste, puis joue avec nous autres ou... On a Simon qui aime le CSGO et tu peux parler de CSGO avec Simon au lieu de lancer des conneries. Il y a certains trolls qui ont fait comme « Ah, OK », puis sont juste partis. Il y en a que, comme j'ai dit, c'est juste des gens qui voulaient foutre le trouble pour foutre le trouble, que t'es kick puis ils passent à un autre chat. Donc vraiment, en étant positif et accueillant, ça fait que tout le monde dans ton chat est positif et accueillant. Puis ça fait aussi, quand les trolls rentrent là-dedans, ils s'aperçoivent tout de suite qu'ils sont tout seuls. En gros, on est comme « Overwatch, ah, t'es pas bonne à Overwatch ». Ben non, ça fait 2 heures que... Je viens d'acheter le jeu, ça fait 2 heures que je joue. T'as-tu des tips?
L'idée, c'est d'essayer un peu de désamorcer ça puis de ramener ça sur le point commun que tout le monde a, qui sont les jeux vidéo. Mm-hmm. Ce que je veux dire, il y a des fortes chances que la personne qui soit là, elle a un certain intérêt pour les jeux vidéo. Si elle a découvert God of Games, parce qu'elle doit être s'intéresser de près ou de loin aux jeux vidéo. C'est intéressant d'essayer de dire, ben, on va essayer de ramener ça sur un point commun qui est moins... moins controversé, parce qu'au final, t'aimes les jeux vidéo, j'aime les jeux vidéo. Si on parle de ça, ben c'est sûr que là, il y a moins de chances qu'on s'envoie chier, quoi.
La deuxième étape, ça serait le choix de plateforme. J'aime pas ça pointer du doigt, mais Twitch, c'est toxique. C'est un peu bizarre comme plateforme. Puis on a découvert Mixer, puis sur Mixer, la communauté est un petit peu plus mature, plus calme, moins toxique. On a vraiment eu moins de problèmes. Avec les trolls en général sur cette plateforme-là. Probablement aussi parce qu'elle a été plus fermée pendant un bon moment. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que Microsoft est en train d'investir dedans. Donc, on a fait... Bon, ben Twitch, on n'arrêtait pas de se faire demander de montrer nos seins. Sur Mixer, c'est pas arrivé autant. Donc, un bon choix de plateforme. On a choisi Discord pour notre serveur de communauté, pour notre chat, pour ces raisons-là, parce que c'est quelque chose qui est safe, c'est quelque chose qui va pas se faire doxer comme un Skype ou un chat Facebook ou des choses comme ça. Aussi, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut promouvoir comme on veut. Est-ce qu'on le met public? Est-ce qu'on fait des invites? On a commencé avec des invites only. Été chercher nos fans qu'on a vus dans des événements, des gens comme ça, ou des gens qui commentaient beaucoup sur nos articles. Puis après, une fois qu'on avait ce groupe-là de gens qu'on savait qui sont pas des trolls. On a pu ouvrir au public. Puis on a broadcasté, on a mis des invites un peu partout. Sans que ça soit complètement public, il faut quand même que tu trouves un invite. Ça le fait qu'il y a des gens qui sont rentrés dans notre Discord, puis on a continué à grandir notre communauté comme ça. Fait que c'était un bon choix de plateforme. Le site web, ben tu sais, c'est comme les commentaires sont... Je m'excuse, mais ils sont moderated, là. Tous les commentaires sont revus par moi personnellement. Puis j'en ai accepté des commentaires qui disaient « Ah, ce que tu dis, c'est moi, je pense que c'est wrong. Voici mon opinion. » Il y a eu des débats, des choses de même. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui dit comme « Ah, l'auteur est con », ça, non. Non, ça, c'est délité, marked as spam. Il y a ça aussi, il y a ce travail-là.
D'essayer de garder la conversation positive, même si ça peut être « Je suis en désaccord », mais... En autant que ce soit pas insultant et dénigrant, il y a moyen de discuter.
Parce que aussi, malheureusement, à l'époque où est-ce qu'on faisait le podcast live sur Twitch, on invitait souvent Steven. Steven, qui est connu comme étant Voice, qui est un chanteur qui, à l'époque, faisait un site qui s'appelait Gamer Nerds, qui connaît très bien les jeux vidéo, qui joue beaucoup aux jeux. C'est un invité qu'on aime souvent avoir sur le podcast, mais quand on le faisait live, c'était clair qu'au moins une fois par podcast, il y avait le N-word qui sortait, puis il fallait qu'on banne quelqu'un. Puis... Mais en général, ça faisait comme... On faisait pas un insta-ban, on faisait « Hey, écoute, on accepte pas ça ici, j'ai pas le choix de te bannir, mais si jamais tu veux te joindre à la conversation, ben tu nous contacteras par PM quand tu vas être prêt à être un decent human being. »
C'est ça, avoir un langage approprié, même si t'es sur l'Internet.
Oui, parce que c'est vraiment... Tu peux pas juste ouvrir Twitch, voir une personne qui a la peau noire puis faire comme « Ah! N-word! » T'as même pas écouté la conversation, là. Ce gars-là, il est super entertaining. Il est très drôle, il est très enjoué, il est très jovial. Il joue beaucoup à Destiny. On l'invite quand il faut parler de Destiny. Toi, tu manques tout ce beau côté-là de la conversation juste parce que t'as fait... Moi, dire ce mot-là. Mais là, on te bannit. Puis il va falloir... Ben, t'écouteras le podcast une fois qu'on le met sur iTunes parce que t'as manqué tout ce beau côté-là.
Et je trouve ça super intéressant. Là, je vais faire un peu... Juste faire un micro hors sujet parce que si je regarde Blizzard avec Overwatch, c'est un peu l'attitude qu'ils ont pris en disant « Regardez, là, on veut vraiment cleaner la communauté. On veut vraiment que ça soit positif parce que ils savent parfaitement que dans un contexte comme ça, ils perdent des gens qui seraient intéressés à jouer à Overwatch, qui ne vont pas y jouer parce que ils arrivent, ils se font insulter, il y a des gens qui sont désagréables, des gens qui sont racistes. Ils veulent essayer de clairer ça et donc ils prennent des mesures quand même assez drastiques, ils veulent mettre des mesures assez drastiques en place. Mm. Et je trouve ça intéressant, c'est la même approche que vous avez eue en disant on préfère se débarrasser des gens désagréables, des gens négatifs, pour vraiment garder cette communauté-là le plus positif possible. Et cela faisant, ça a l'air aussi plus inclusif. Donc, il y a des gens peut-être qui ne se trouvent pas de place ailleurs sur Internet ou sur d'autres sites de jeux vidéo, qui ont peut-être l'impression que Girls on Games, c'est un endroit qui va les accueillir à bras ouverts et où ils vont se sentir bien.
Ouais, ben c'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment... on a un petit peu changé notre donne plus comme journaliste, c'est le Polygon IGN, puis on a changé plus sur une... Vraiment, notre grosse vocation en ce moment, c'est bâtir la communauté, bâtir une communauté. C'est vraiment ça. C'est ça qu'on veut faire avec le podcast. On a changé le format pour que ça soit plus facile d'avoir des entrevues, de faire des entrevues, de parler à des gens qui font les jeux, qui sont dans les jeux, qui sont autour des jeux, qui sont dans la communauté des jeux vidéo. C'est beaucoup plus facile avec le format audio seulement préenregistré. On a le Discord server, le Stream Team, c'est un gros focus en ce moment. Puis même si on a un petit peu délaissé le côté écrit du site web, le côté éditorial, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert à la communauté. Fait qu'à un moment donné, on était dans Discord, puis Paul, qui est un de nos fans de plus longue date, a fait « Ah, est-ce que vous allez écrire une critique sur la série Castlevania de Netflix? » J'ai dit « Je sais pas, mais il y a personne qui m'en a parlé, j'ai pas le temps. » Mais tu sais, toi, Paul, t'as grandi avec Castlevania, puis je sais que ça fait longtemps que t'aimes ces jeux-là, cette série-là, puis tu me dis que tu l'aimes. Fait que ça doit valoir quelque chose, ton opinion, vu que les Nintendo Hearts, t'es a toutes clairées quand t'étais un enfant. Donc, ça te tenterait-tu, toi, de nous pitcher une critique? Puis, en fait, je peux faire ça? Oui. Si tu écris bien en anglais, moi, j'ai pas de raison de refuser. Donc, j'ai envoyé, on a un petit kit qu'on prépare pour les contributeurs. J'ai juste envoyé ça. J'ai dit, tu sais, tu connais la genèse de Girls on Games. Je sais que tu as créé le site web de ta compagnie, fait que je sais que tu as une plume correcte. Puis, finalement, il est super bon. Il écrit vraiment bien, puis il a fait une belle critique. Puis. On a un article de Paul sur le site web parce qu'il a décidé que ça me tentait de faire ça. Donc moi, les gens qui veulent écrire pour Girls on Games, on apprécie. Puis surtout si c'est des gens qui nous connaissent, qui sont actifs dans notre Discord, c'est bien parce que c'est des gens qu'on a déjà avec un rapport. C'est facile de travailler avec ça. Mais des fois, on a des gens qui nous écrivent des courriels. Genre, j'ai fait cet article-là, c'était pour l'école, mais je sais pas où le mettre. Je peux-tu le mettre sur votre site? Ah ben oui! Ah oui, on va te créditer, on va te faire un petit un profil auteur, on va s'assurer de mettre tous les liens que tu as besoin, puis l'article va vivre sur Girls on Games, ça va nous faire plaisir.
Ah, super intéressant, donc ça devient un deuxième bénéfice comme ça de bâtir une communauté, c'est qu'en plus ça peut amener des gens qui vont contribuer éventuellement à Girls on Games.
Parce que Girls on Games en ce moment, ça fonctionne qu'avec des bénévoles, c'est encore beaucoup un projet passion. Si on a trouvé certaines avenues pour avoir du revenu avec YouTube ou en vendant des annonces sur le podcast, ça a été utilisé pour payer, pour faire fonctionner Girls on Games, du hosting. Il faut payer pour notre hosting de podcast, ces genres de trucs-là. Sinon, c'est de notre poche. Puis c'est un beau projet qu'on fait rouler parce qu'on aime ça. Puis ça nous donne un beau outlet créatif. Puis comme j'ai dit plus tôt dans le podcast... OK.
C'est la vie à Montréal, c'est très vivant.
Ouais. Au moins, le Canadien joue pas, sinon on entendrait gueuler à toutes les deux minutes. Ouais, puis avec Girls on Games, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés des postes en jeux vidéo juste en travaillant sur ce projet-là complémentaire, parce que ça impressionne les gens, le fait qu'on est tellement passionnés, on n'a pas de job en jeux vidéo en ce moment, mais on va trouver un moyen de partager notre passion, donc... C'est ça le projet de Girls on Games en ce moment. C'est vraiment un projet de communauté, de promouvoir une communauté positive au sein des jeux vidéo pour que ça se propage. Pour que pas que tu fasses comme « Ah, j'ai besoin de trouver une communauté comme Girls on Games pour me sentir bien dans la communauté de jeux vidéo. » Non, toute la communauté de jeux vidéo devrait être de même.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit, ça m'amène à un autre sujet que je voulais approcher ce soir avec toi. Parce que tu l'as mentionné, Girls on Games, c'est donc il faut que ce matin sur vraiment bâtir une communauté, peut-être moins le côté traditionnel à la Kotaku, à la Polygon, où c'est des articles sur un site web. Il y a un podcast, il y a une équipe de streamers. Donc il y a vraiment, c'est quasiment multiplateforme, dans le sens qu'il y a plusieurs plateformes où tu peux retrouver le contenu Girls on Games. Est-ce que pour toi, c'est un peu ça l'avenir de certains médias, ou du moins des médias un peu plus indépendants, un peu plus petits, de jeux vidéo? de vraiment se diversifier, de focusser sur la communauté. Parce que si on regarde en 2017, on voit qu'il y a une certaine transition. Il y a encore des fois des sites web qui ferment ou qui disparaissent. On voit que c'est pas nécessairement facile parce qu'aujourd'hui, n'importe qui avec un micro comme nous ou une caméra peut devenir un influenceur s'il y a des views sur YouTube. Donc, pour toi, c'est quoi un peu l'avenir? C'est ce que c'est vraiment rejoindre les gens de différentes façons, builder la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire avec Girls on Games?
Ben, c'est certain que le monde des médias change en général. Pour avoir travaillé en radio et en télé pendant presque 5 ans, ça, je peux te le dire, c'est pas juste dans les médias de jeux vidéo que ça se passe, c'est partout. Si on regarde comme exemple Musique Plus qui a arrêté Monsieur Net, qui était l'émission de technologie et de jeux vidéo au Québec, une des premières au pays qui a duré pendant des années. Ils ont fermé cette émission-là. Qu'est-ce que Denis Talbot fait maintenant? Ben, il fait du Twitch, il fait cette job-là d'influenceur, puis ça a l'air de bien rouler, ces affaires. Donc, moi, je pense que c'est plus nécessairement une question de la grosse machine derrière, mais la voix. Parce que beaucoup de gens qui veulent pas une opinion...
Formatée.
Formatée, propre, trop objective. Le entertainment, c'est subjectif. Donc, il faut une dose de subjectivité. Par exemple, Paul, qui a grandi avec Castlevania, qui a toujours dit que c'était un de ses jeux vidéo préférés, s'il m'aurait dit « Ah, la série Netflix, j'ai détesté. Red flag, red alert, red alert. » Je suis comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi qu'ils ont muffé? Parle-moi, Paul, je veux savoir pourquoi c'est pas bon. » C'est lui qui doit faire la critique, on s'entend. Pas quelqu'un qui a comme une liste de choses à écrire pour un site. Donc, la beauté des influenceurs, c'est vraiment, c'est des voix, puis c'est des gens que tu vas voir pour les opinions qui comptent pour toi.
Donc, oui, c'est un peu comme tu disais, on voit vraiment quand même une certaine évolution, même au niveau des plus gros médias. Tu parlais entre autres d'IGN, de vraiment mettre des personnalités, mettre des voix, être plus subjectif, parce qu'au final, apprécier un jeu vidéo, non, c'est subjectif.
Ouais, mais aussi, comme on est dans une ère où est-ce qu'un jeu n'est jamais final. Puis on s'entend que les critiques deviennent, à un moment donné, complètement désuètes. Si vous allez sur girlsongames.ca et vous cherchez pour No Man's Sky et vous lisez la critique de Simon, ça n'a rien à voir avec le No Man's Sky d'aujourd'hui. Parce que le jeu a complètement changé. C'est plus comme un espèce de moment de l'histoire où est-ce que le jeu était mauvais, mais maintenant qu'ils ont peut-être plus la machine de PlayStation ou qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent faire ou qu'ils ont le feedback de la communauté puis qu'ils sont plus... pognés à la gorge par le hype médiatique, ils disent « Bon, ben on va livrer le jeu qu'on voulait livrer. »
S'ils ont le temps aussi, parce que des fois, je pensais s'ils ont peut-être manqué de temps.
Oui, mais comme à Assassin's Creed Unity, ce jeu-là, là, tu le jouais 8 mois plus tard, c'était pas le même jeu. Nous autres, on l'a joué d'avance, on avait des problèmes de framerate, c'était le premier jeu qu'il avait fait sur les nouvelles générations. Ça chuggait, je me souviens, il y avait des problèmes, il y avait des gens... qui avait le bug de « j'ai pas de face », là.
Oui, c'était merveilleux.
C'était juste 1%, je pense, des gamers PC, là. C'était une carte graphique spécifique qui causait ce bug-là, mais il était tellement magistral que tout le monde l'a vu.
Mass Effect Andromeda a un peu le même cas.
Ouais.
Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été fixées. Mais ma question que je poserais, parce que c'est super intéressant, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, comparé à il y a 10 ou 15 ans, quand on avait un jeu cartouche, c'est le jeu.
Mm-hmm.
Tu le testes, tu fais ta critique... Le jeu changera pas vraiment, à moins qu'il y ait une nouvelle version qui sorte.
Mm-hmm.
Mais au jour d'aujourd'hui, avec les patchs, avec les DLC, avec les jeux qui sont faits sous forme de service, comme Destiny, comme The Division, comme Rainbow Six, les jeux évoluent tellement. Comment est-ce qu'on approche ça en tant que média pour dire bon, on va essayer de parler d'un jeu? Est-ce que c'est de faire plusieurs critiques? Est-ce que c'est de faire des mises à jour? Est-ce que c'est de faire des couvertures à chaque nouvelle annonce? Je sais pas, tu vois ça comment de ton point de vue?
Mais pour les... Pour les games as service, nous autres, on a nos gens qui adorent ces jeux-là. Simon a joué pendant très longtemps à CSGO, par exemple. Fait que s'il y a des changements à CSGO, souvent, on va partir un podcast puis il va faire « Bon, ben Valve est encore en train de tuer son jeu, par exemple.
» Un bon titre de podcast.
Ouais. Mais c'est vraiment de continuer la conversation parce que ces jeux-là, c'est des communautés, c'est bâti sur la communauté puis ça change beaucoup. Par exemple, le World of Warcraft que moi, je jouais quand j'étais à l'université n'a rien à voir avec le World of Warcraft d'aujourd'hui. Donc, si c'est encore pertinent de parler de World of Warcraft, il faut continuer à en parler. Par exemple, pour World of Warcraft, on parle des expansions, quand il y a une nouvelle expansion, quand il y a des changements majeurs. Overwatch, par exemple, à la base, vraiment, la genèse du jeu ne change pas beaucoup. Ils font du balancement en ce moment, ils rajoutent des maps. Mais ça reste que si on regarde, par exemple, la critique qui a été faite par Kelsey quand le jeu est sorti, elle, c'était comme Overwatch, le first-person shooter pour les gens qui n'aiment pas les first-person shooters. Pis je pense que ce jeu-là, même avec la nouvelle Mercy, puis Junkertown, puis D.Va qui a maintenant un petit des roquettes, puis qui a fait bang, ça l'a pas changé, cette genèse-là. Fait que c'est peut-être de plutôt parler de qu'est-ce qui fait un jeu intéressant, surtout pour les games as service. Parce que Rainbow Six, ils rajoutent des opérateurs, ils font des nouvelles saisons, mais ça reste qu'il y a une grosse portion de tactique. Pis si tu fais pas attention à la tactique, c'est pas comme Overwatch, où est-ce que tu pourrais être comme... je sais pas, un Hanzo, quatre Genji, puis deux Mercy, puis réussir à pousser le payload jusqu'au bout, pareil.
Tu parlais, donc, bâtir une communauté, avoir une voix, avoir vraiment... embrasser la subjectivité plus que l'objectivité, avoir vraiment des personnalités qui se démarquent. Est-ce que c'est là-dessus que tu vois les Girls on Game en général, et même les médias de jeux vidéo, et même les médias en général évoluer? Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, que tu vois arriver dans les prochaines années qui vont un peu redéfinir ou replacer comment est-ce que les gens approchent... approche le traitement des jeux vidéo dans les médias?
Ouais. Moi, je pense que ça va devenir de plus en plus un marché d'influenceurs. On le voit beaucoup, par exemple, avec YouTube, juste avec la communauté de beauté. T'sais, les gens font comme des YouTubers, se font inviter comme dans des locations exotiques par les compagnies de cosmétiques, puis ils se font lécher le cul, puis ils se font donner des produits, puis tout ça, puis ils se font donner de la bouffe, puis de l'alcool pendant 3 jours. La réalité, c'est que les compagnies ont toujours fait ça. C'est jusqu'avant, ils le faisaient avec des journalistes de magazines, avec Vogue, Cosmopolitan, Elle Québec, tout ça. Ils prenaient ces gens-là, ils les amenaient sur une île exotique d'un Caraïbe pendant 3 jours, puis là, L'Oréal leur parlait de leur fond de teint, puis de leur eyeliner, puis tout ça pendant 3 jours. Puis le soir, il y avait une petite fête avec bien arrosé. Maintenant, ils vont chercher les gens qui ont une voix puis qui ont une portée. Puis ça, c'est des YouTubers maintenant ou des Instagrammeurs et tout ça. Les jeux vidéo vont s'en venir comme ça parce que... veut pas, quelqu'un chez Polygon qui a joué le jeu peut-être à mi-chemin ou qui a joué le jeu parce qu'il y avait un assignment puis un article à écrire versus quelqu'un sur Twitch ou sur Mixer qui stream le jeu au complet, ben je vais avoir une meilleure idée de qu'est-ce que le jeu est, est-ce que je vais aimer ça. Puis des fois aussi, comme par exemple, il a dit « j'ai pas le temps de jouer à Persona 5, je me suis trouvé un YouTuber que j'aime qui est en train de faire un playthrough puis je suis en train de le regarder jouer ». Il y a ça aussi, il y a cette dimension-là de « so many games, so little time ». Comment est-ce que tu joues à tout? Tu le fais pas. Tu joues à un jeu puis t'écoutes quelqu'un d'autre jouer pendant que tu joues à un.
Mais et ça amène à un bon point. C'est une question des fois que je me pose parce que je pense un peu comme toi. C'est sûr que moi aussi, comme tout le monde, j'apprécie de voir des gens qui trippent, qui sont fans d'un produit qui en parlent parce que souvent, c'est plus intéressant que quelqu'un qui fait « c'est juste un travail comme un autre ». Mais est-ce qu'on risque pas de perdre des fois des gens qui ont une autre perspective? Dans le sens, moi, je suis pas un fan de shooter. Mais j'ai joué à Destiny 2, puis je te donne mon opinion. Est-ce qu'on risque pas, à un moment donné, juste d'avoir juste des fans qui parlent de ce qu'ils aiment, puis de parler peut-être un petit peu le paysage que des fois les critiques peuvent donner en disant « bah lui, c'est moins un triple shooter, mais il aimait Destiny 2. Ah, c'est cool, bah, je sais pas, mon cousin qui aime pas les shooters, ce qui est pas le cas. Peut-être qu'il va aimer Destiny 2, parce que je sais que des gens qui sont pas fans de shooters aiment ce jeu-là pareil. »
Je dirais pas que ça va arriver. Parce que beaucoup de gens, comme par exemple, moi, je déteste les shooters. J'ai commencé à jouer à Overwatch parce que tellement d'amis qui jouent à Overwatch, viens jouer à Overwatch, viens jouer à Overwatch, on a besoin d'un sixième, viens jouer à Overwatch, j'ai fini par jouer à Overwatch, puis ah man, j'aime Overwatch, puis j'aime pas les shooters, mais je joue comme 5 à 10 heures par semaine d'Overwatch.
Est-ce que c'est pas justement un bon point de vue de dire, moi je suis pas un joueur de shooter, mais j'aime Overwatch, donc c'est peut-être que si toi, qui n'aimes pas les shooters, tu joues à Overwatch, tu peux peut-être apprécier ça, est-ce qu'on perd pas un peu des fois certains points de vue qui peuvent être intéressants puis enrichir la conversation
autour
des jeux?
Non, parce qu'en même temps, c'est aux gens qui font ce contenu-là de pas rester dans leur boîte et d'essayer des choses nouvelles. Puis que de regarder, par exemple, Ubisoft qui sort Mario Rabbids Kingdom Battle puis de faire « c'est donc bien bizarre » au lieu d'être de loin puis faire « c'est donc bien bizarre, mais moi, il faut que je continue à jouer à Destiny 2 parce que je suis un gros fan de Destiny », ça serait peut-être de faire « Man, je vais l'essayer. Comme t'as-tu une Switch à maison? T'as-tu accès à une Switch? T'es-tu sur la liste PR d'Ubisoft? » Comme moi, quand on voit quelque chose d'intéressant, qu'on est comme « Wow, c'est quoi ça? On a-tu ce contact-là? » Puis on envoie un courriel comme « Hey, on voudrait couvrir ton jeu, c'est vraiment cool. » Puis c'est ça. Puis c'est Lia qui a joué à Mario Rabbids, puis elle a pas joué à XCOM, elle était pas très versée dans le
jeu de stratégie.
Dans le jeu de stratégie, Lapin Crétin, elle ne connaissait pas beaucoup. Mario, elle connaît très, très bien parce qu'elle a grandi avec ça. Donc, elle a pu jouer puis avoir un œil critique là-dessus puis de faire de comment. J'ai passé 2 heures à ne pas savoir qu'est-ce que je faisais. Puis, tu sais, maintenant, j'ai une meilleure idée de ce que c'est. Puis, aussi présenter le jeu que pour ce qu'est-ce que c'est, qui est un espèce de jeu qui est kid-friendly, mais que si t'es pas un enfant, qui peut être aussi challenging. Comme si moi, j'aime pas les shooters, puis on m'a convaincu de jouer à Overwatch, et à un moment donné, de ramener mon opinion dans l'univers sur les plateformes de Girls on Games, de faire « J'aime pas les shooters, je suis encore une merde à viser, mais je joue à tous les heures de lunch avec mes amis, puis j'ai trouvé un moyen d'apprendre à viser. » Mais aussi, je joue beaucoup de Symmetra, puis le monde dirait que c'est un peu lazy parce que t'as pas besoin de viser avec elle. Mais
c'est l'intérêt.
Mais je torche! Je torche pareil!
C'est l'intérêt d'Overwatch, t'as des personnages qui sont moins focusés shooting, et donc tu peux quand même participer à l'équipe et t'amuser à Overwatch, même si t'es pas nécessairement un gars qui snipe en no-scope.
Mais c'est ça, puis moi, mon opinion sur Overwatch, c'est l'opinion de quelqu'un qui sait pas viser, puis qui joue quand même sur PC, une plateforme qui doit. Où est-ce que tu dois viser?
On s'attend à ça au minimum, ouais.
Ouais, mais j'ai réussi à avoir play the game, on réussit à gagner, j'ai des stats pas pires. Bon, je m'en tiens à arcade et quick play, là. Je m'en vais pas en compétition parce que...
Tu fais peut-être bien jusqu'à ce qu'ils règlent leurs problèmes de communauté ouais, à ce niveau-là.
Le petit message de Jeff, il m'a pas convaincu de jouer en compétition, disons ça.
Non, pas tout de suite. Un autre point sur lequel je voulais venir, et peut-être ça va sûrement être une dernière question de l'entrevue. Bon, si on n'avait pas dit Girls on Games, un peu comme le nom l'indique, c'est en anglais. Ça veut dire, techniquement, vous êtes en compétition avec tous les médias anglais du monde entier, donc les gros médias américains, les gros médias britanniques. La question que j'aurais, c'est comment est-ce qu'on fait pour se faire une place quand on compétitionne avec, avec des joueurs majeurs qui attirent énormément de personnes sur leur contenu?
C'est drôle, parce qu'on se fait demander constamment s'il y a un équivalent de nous à Toronto ou aux États-Unis.
Ah oui?
Fait clairement, même si on est anglophone... On a comblé un vide. On s'est trouvé une niche malgré nous. Parce que beaucoup de gens ils viennent nous voir et sont comme « On aime ce que vous faites. » On essaie de trouver un équivalent aux États-Unis. Donc, on cherche de trouver quelqu'un d'indépendant, axé sur la communauté, qui promouvoit la diversité. Puis, c'est ça qui n'est pas toxique. Puis on est comme « On ne sait pas. » Fait que je pense que c'est de là la force de comment est-ce que les gens ont trouvé notre contenu, parce qu'on était peut-être une des seules à Montréal puis au Canada à dire haut et fort, on est des filles, on joue à toutes, on se cherche des gens qui jouent à toutes pour nous aider à couvrir les jeux, parce qu'on se fait bombarder par toutes les compagnies puis on est juste deux. Puis on veut de l'aide, on veut des gens pour aider, puis les gens qui nous demandent des équivalents, c'est pas des YouTubers qui cherchent comme « Ah, oh, j'aimerais ça partir ce projet ou trouver un projet similaire. » C'est les compagnies de jeux vidéo qui sont comme des AAA, les indés, tout ça, sont genre « On aime beaucoup ce que vous faites. Vous nous aidez beaucoup à rayonner en Amérique du Nord, mais on vous cherche à Los Angeles, on vous cherche à San Francisco, on vous cherche à Vancouver, on vous cherche dans les studios locaux. On aimerait ça avoir Girls on Games local avec nos locales proches de nos studios qui sont pas nécessairement à Montréal. » Puis les gens ne trouvent pas. Fait que ma question, c'est plus ça. C'est pourquoi est-ce que nous, on est spécial?
Excellent. Mais écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Moi, j'ai fini ma poutine. Je vais te laisser un peu de temps aussi, sans te poser de questions, pour que tu puisses finir ton burger. Comment était ton burger, d'ailleurs, jusqu'à maintenant?
Ben, j'en ai mangé à peu près la moitié, puis il est vraiment bon.
Oui? Bon.
Je pense qu'il serait meilleur s'il ne ferait pas de 31 degrés Celsius.
Ça serait plus agréable.
Ça serait plus agréable, mais en même temps, les barbecues en été, on en fait des fois.
Puis la poutine qui venait avec, est-ce que ça a passé ton test?
C'est pas ma préférée, mais elle est bonne.
OK.
Je suis une snob de poutine.
C'est quoi ta préférée, juste par curiosité?
J'en ai deux à Montréal.
Oui.
Poutineville.
Oui, bien sûr.
La sauce est super bonne, puis les patates écrasées, là, sont l'espèce de patates pilées qui...
C'est leur spécialité.
C'est vraiment nice. Puis sinon, dans Hochelaga, il y a une petite place qui s'appelle Poutine Centrale. Leur sauce à poutine aussi, leur frites maison, extrêmement bonne. Et ils font des pogo maison qui sont à s'en pitcher ses murs.
Ah, c'est bon à savoir pour ceux qui auront l'occasion de chercher une nouvelle poutine à Montréal.
Ouais.
Sinon, maintenant, si les gens veulent découvrir Girls on Games, veulent vous suivre, est-ce que tu peux nous dire où on peut vous trouver sur les internets?
Oui, on est sur Twitter et Facebook, @thegirlsongames, avec le THE. On est sur Instagram, Girls on Games. Si vous voulez joindre notre serveur Discord, on parle beaucoup de jeux vidéo, puis on a des channels où est-ce qu'on parle de d'autres affaires, comme mettre des photos de nos chats et de nos chiens. C'est discord.me/girlsongames, mais tout ce que vous voulez savoir est au girlsongames.ca. C'est là qu'on on a tous les articles qu'on écrit sont là, tous les épisodes de podcast. Il y a une petite search bar si vous voulez me trouver puis aller lire tous mes articles ou me stalker sur Girls on Games. C'est là, vous pouvez le faire.
Et le podcast d'ailleurs qui s'appelle aussi Girls on Games, hein, pour ne pas surprendre personne. Quand est-ce que le podcast sort? Est-ce que c'est chaque semaine?
Oui, on est à toutes les semaines, tous les lundis. On prend très rarement des pauses, donc on sort du contenu très souvent. On a aussi Simon qui a parti son propre podcast de e-sports qui s'appelle Off Buffs and Nerfs. Il fait un épisode aux deux semaines. Vous pouvez les trouver sur Twitter @OffBuffsAndNerfs et aussi sur girlsongames.ca.
Parfait. Ben écoute, merci encore d'être venu à Poutine 2. Puis on aura sûrement l'occasion de se reparler pour des futurs projets, qui sait.
Alors c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Si vous me nourrissez, moi je me pointe n'importe où.
C'est bon, on va s'en souvenir.
Donc, nous voilà déjà de retour à la Casa del Belacel. Est-ce que ça va bien, Grégory?
Oui, ça va très bien. Je suis repu.
Oui?
Oui, tout à fait.
Justement, en termes de progression de processus actuellement, est-ce que tu crois que tu vas mieux contrôler ta digestion ce soir?
Pas avec la température actuelle ou dans mon appartement, il fait probablement aussi chaud que dans un volcan.
Oui.
Donc ça va être assez désagréable. Mais cela étant, du moins, la poutine était bien bonne.
Et justement, au-delà de la poutine, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue de ton côté? As-tu eu des surprises?
Des surprises, c'est une bonne question. En tout cas, du moins, je trouve que ça a été vraiment très bien. Je trouve que ça a bien coulé. Ce qui était cool aussi, c'est que bon, l'épisode 0, c'est toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, on parle souvent ensemble. Catherine, je la connais un peu moins, mais je trouve que c'était décontracté. Je trouve qu'on a abordé beaucoup de sujets qui, moi, j'ai trouvé vraiment intéressants. J'espère que nos auditeurs aussi ont trouvé ça pertinent.
Non, c'est ça. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé encourageant dans son propos, je pense, dans les solutions qu'elle apportait, c'est par rapport, bon, souvent on parle dans l'industrie du jeu des problématiques d'inclusion des différents sexes, des différentes ethnies, exemple même aussi les différentes orientations sexuelles, puis je trouvais ça bien que pour une fois, on a quelqu'un aussi avec vraiment des solutions viables. C'est une chose de dénoncer, c'est une chose de peut-être crier un peu des proies après des trucs déplorables, mais j'ai trouvé qu'elle a vraiment amené des solutions qui sont assez simples à implémenter, c'est-à-dire trois quarts du temps, écouter les gens, avoir un ton calme, puis ensuite essayer de bâtir quelque chose avec les personnes qui se révoltent un peu parfois.
Non, ça, puis c'est intéressant, parce qu'à petite échelle, c'est quand même ce que certains développeurs de jeux vidéo essaient de faire, parce que veut pas le côté toxique qu'on trouve malheureusement dans une certaine frange de joueurs. C'est un problème, parce que surtout quand dans des jeux qui sont en ligne, qui sont avec d'autres personnes, ben, se sentir à sa place, pas avoir des commentaires désagréables, surtout si on est nouveau ou si on apprend ou si on essaie de joindre la communauté, avoir une communauté accueillante, je pense que c'est très fort. Moi, souvent au travail, on prend l'exemple Final Fantasy XIV, qui est un bon exemple, mais si on regarde même au niveau du game design, il y a énormément de choses aussi qui sont là pour encourager les gens en fait, à travailler ensemble plutôt que d'être plus agressif ou dédaigneux. Là, c'est sans parler de tous les problèmes de discrimination, de sexisme, de racisme, des fois qu'on a aussi dans les jeux en ligne. Mais ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui veulent commencer à changer ça, que ce soit à petite échelle au niveau de leur communauté de sites de jeux vidéo ou comme maintenant Blizzard avec Overwatch à une plus grosse échelle de 1 million de joueurs.
Non, définitivement. Puis l'autre affaire qui m'a aussi frappé, c'est quelque chose auquel on est confronté nous-mêmes de notre côté, c'est vraiment comment Catherine jouait avec la dualité entre son travail chez Ubisoft et qu'est-ce qu'elle fait à Girls on Games, parce que à la lumière de qu'est-ce qu'on a eu avec le Gamergate, il y a des gens qui observent qu'est-ce qui se passe avec les développeurs, les médias. Donc, je crois que c'est tout à son honneur de vraiment avoir trouvé une balance entre ces deux occupations-là de vie.
Non, c'est ça. Je pense que c'était vraiment intéressant de toucher à ce point-là aussi. La vérité, c'est que malheureusement, il y a toujours des gens pour qui vont voir le complot partout. Puis, je l'ai dit de façon très candide dans l'entrevue aussi. Je veux dire, tu es à Montréal, on connaît des gens qui sont dans le milieu médiatique, on connaît des développeurs, j'en connais plein, bien évidemment. Ça fait quand même plus que 10 ans que je suis dans l'industrie maintenant du développement. Est-ce que ça veut dire pour autant t'es prêt à encenser tout ce qu'ils font ou à devenir une espèce de publicitaire déguisé? Pas nécessairement. Je pense qu'au final, tu peux faire la part des choses aussi. C'est comme tout. Tu peux être critique envers un projet sans être critique envers la personne.
Absolument. Et d'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est conspiration, peur des reptiliens, on vous invite d'ailleurs à écouter les jeux sont faits, n'est-ce pas, Greg?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de conspiration ni de reptiliens, mais écoute, on pourrait amener ça comme un segment spécial, la conspiration de la semaine.
D'ailleurs, je vais essayer d'engager des recherchistes à pas cher pour ça, ça va être fantastique.
On le paiera en bouteille de Perrier.
Oui. Oh, regarde, c'était ça déjà pour la commandite, c'est fantastique. Tant qu'à parler d'argent, Greg, est-ce qu'on parle d'autres moyens potentiellement de faire de l'argent?
Oui, vas-y.
On va parler des affaires sérieuses. Donc
d'accord, bien sûr.
On va d'abord parler des abonnements. Donc oui, c'est l'épisode 1 de Poutine à 2. Bon, c'est probablement votre premier contact. Peut-être actuellement, vous l'écoutez, ma foi, j'allais dire en direct, mais c'est en différé, on va être honnête avec les gens, sur le site de Radio Kawa. Bien évidemment, c'est possible de s'abonner à Poutine à 2. Il y a deux moyens actuellement. D'abord, si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice de Apple Podcasts, bien sûr, Poutine à 2 va apparaître sur ce service-là. Vous avez tout simplement à chercher Poutine à 2. On a fait nos recherches, j'ose croire qu'il n'y a pas d'autres Poutine à deux. Je ne sais pas, tu fais des recherches de ton côté, Greg?
Pas encore, mais je pense qu'on a un nom quand même un peu unique. Donc, on devrait être tranquille pour l'instant.
C'est ça. Sinon, chercher Radio Kawa, ça devrait vous aider. Et justement, parlant de Radio Kawa, normalement, sur le site web de Radio Kawa, sur notre page d'émission, vous devrez avoir l'accès à un fil RSS. Donc, utilisez ce fantastique fil RSS et vous allez être en mesure de recevoir nos nouveaux épisodes. Il y a aussi une très grande chose à propos de Poutine à 2. C'est une émission qui s'inscrit dans l'ère moderne des communications. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est présent sur les médias sociaux. Es-tu d'accord avec ça, Greg?
On est présent sur les médias sociaux, oui, c'est un fait.
Merci, Greg. Donc oui, Poutine à 2 est présent sur Facebook et Twitter. C'est assez simple. Cherchez tout simplement l'identifiant Poutine à 2. Vous avez le nom de l'émission dans votre visage. Prenez Poutine à 2, mettez ça dans le même plein texte, enlevez l'accent sur le A, vous allez avoir notre identifiant sur les médias sociaux. À quoi peut-on s'attendre ces médias sociaux de Poutine à 2, mon cher Greg?
Bien évidemment, on va parler de nos futurs épisodes, nos futurs invités, mais aussi c'est une occasion pour vous d'interagir si vous avez peut-être des questions, des sujets qu'on voudrait qu'on aborde, peut-être des personnes que vous aimeriez voir à l'émission. Vous pouvez toujours nous contacter, ça va nous faire plaisir d'essayer de répondre à vos demandes.
D'ailleurs, parlant de réseaux sociaux, bien évidemment, notre partenaire dans cette grande aventure, Radio Kawa, est présent sur les réseaux sociaux. Donc, cherchez RadioKawa.com pour trouver Radio Kawa sur Facebook et cherchez Radio Kawa tout simplement sur Twitter et vous allez trouver Radio Kawa. C'est une excellente opportunité pour prendre contact avec ce grand collectif de podcasting. Mais au-delà de ça, vous allez être bien évidemment exposé à de nouvelles fantastiques émissions, autant dans le domaine du jeu vidéo que d'autres domaines du divertissement. D'ailleurs, si vous avez aimé d'abord l'épisode 0 de Poutine à 2 et peut-être l'épisode 1, il y a une manière très simple de nous aider. Donc, tout d'abord, vous pouvez laisser des notes sur Apple Podcasts, idéalement 5 étoiles. Si vous mettez moins de 5 étoiles, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux puisqu'on voudrait savoir pourquoi. Et si vous voulez aller à une étape un petit peu plus loin dans le processus, vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Ça nous donnerait définitivement un grand coup de main. On est aussi en début de cheminement, donc toute aide est vraiment appréciée. Donc, on compte évidemment sur le grand bouche à oreille. Donc, si vous avez des amis, de la famille, peut-être même un animal de compagnie qui aime les jeux vidéo, parlez de Poutine à 2. Ça risque de les intéresser. Vous allez devenir la personne la plus cool du groupe. Ça sera tout à votre honneur. Et en plus, ça va nous donner un coup de main. Donc, je crois qu'on va déjà y aller avec les remerciements. Donc, un gros merci à toi, Greg. Ça a été fantastique encore une fois.
Ça fait plaisir.
Donc, bien évidemment, nous voudrions remercier vraiment Catherine Sontan. Ça a été très intéressant. Son choix a quand même été assez controversé côté bouffe. Je ne sais pas, tu te sens-tu rassuré face au concept? T'sais, on appelle ça poutine à deux, puis elle arrive avec un burger. Là.
Non, mais elle a pris une poutine à la place des frites, donc ça marche.
Donc,
on est très ouvert sur le concept quand même.
Oui, très, très bien. J'ai hâte de voir d'ailleurs que ça va nous amener cette
frite. Si quelqu'un commande une salade, là, je vais peut-être le regarder un peu de travers, mais... Tant que ça reste dans la thématique, je pense que c'est bon.
D'accord. On va quand même garder une main ferme sur le concept. Ça te fait rien.
Oui, d'accord.
Très bien. C'est change parole. On va vous dire à dans deux semaines. Donc, bien évidemment, dans deux semaines, nous allons avoir une autre épatante, touchante, affriolante entrevue avec un ou une membre de la communauté du développement de jeux de Montréal. Et pour terminer, nous aimerions tout simplement vous proposer des bandes annonces de deux autres fantastiques émissions de Radio Kawa. Sur ce, on se dit bye-bye. À la prochaine.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.